Chapitre 7. Transit. I too take leave of all I ever had. Je prends aussi congé de tout ce que j'ai eu. De quelle couche profondément enfouie de sa mémoire ce verre était-il remonté? Heywood Floyd ferma les yeux et s'efforça de reconsidérer le passé. C'était certainement extrait d'un poème, mais il n'avait guère lu de vers depuis qu'il avait quitté l'université. Et même alors bien peu, sauf durant un bref séminaire de littérature anglaise. Sans autre référence, il faudrait à l'ordinateur de la station pas mal de temps, jusqu'à 10 minutes peut-être, pour retrouver le vers dans tout l'ensemble de la littérature anglaise. Et ce serait tricher, sans parler du coût de l'opération. Alors Floyd préférait relever le défi intellectuel. Un poème de guerre, naturellement, mais quelle guerre ? Il y en avait eu tant au XXe siècle. Il fouillait encore dans les brumes du souvenir quand ses invités arrivèrent, marchant avec cette lenteur gracieuse et souple particulière aux vieux habitués du 6e de G. La société de Pasteur était fortement influencée par la stratification centrifuge. Certaines personnes ne quittaient jamais le G0 du centre, alors que celles qui espéraient retourner sur la Terre préféraient s'installer sur la périphérie du gigantesque disque en lente évolution, où la gravité était presque normale. George et Jerry étaient maintenant les plus proches et les plus vieux amis de Floyd, ce qui était étonnant car ils avaient très peu de points communs évidents. En songeant à sa propre vie sentimentale quelque peu bouleversée, ses deux mariages, ses trois enfants, il lui arrivait souvent d'envier la longue stabilité de leur rapport, pas du tout perturbée, apparemment, par les neveux de la Terre ou de la Lune, qui leur rendaient visite de temps en temps. « Vous n'avez jamais songé à divorcer ?» leur avait-il demandé un jour pour les taquiner. Comme d'habitude, George, dont le talent acrobatique et néanmoins profondément sérieux de chef d'orchestre était en grande partie responsable du renouveau de la musique symphonique, ne resta pas à court de réponse. Au divorce, jamais. Au meurtre, souvent. Et naturellement, il ne s'en tirerait jamais, riposta Jerry. Sébastien vendrait la mèche. Sébastien était un magnifique perroquet que le couple avait pu garder avec lui après une longue bataille avec les autorités de l'hôpital. Il savait non seulement parler, mais encore chanter les premières mesures du concerto pour violon de Sibelius, qui avait permis à Jerry, considérablement aidé par Antonio Stradivarius, de bâtir sa réputation un demi-siècle plus tôt. Le moment était maintenant venu de dire adieu à George, à Jerry et à Sébastien, peut-être un au revoir de quelques semaines seulement, peut-être un adieu définitif. Floyd avait déjà pris congé de toutes ses autres relations au cours d'une suite de réceptions qui avait mis à mal la réserve de vin de la station et ne voyait plus rien qui lui restât à faire. Son Comsec Archie, d'un modèle ancien mais encore en parfait état, avait été programmé pour s'occuper de tous les messages qui arriveraient, soit en répondant lui-même si possible, soit en lui faisant suivre à bord d'univers ce qu'il pourrait y avoir d'urgent, d'insolite ou de personnel. Ce serait bizarre, après tant d'années, de ne pas pouvoir parler à qui il voulait, mais en compensation, il pourrait aussi éviter les importuns. Et après quelques jours de voyage, le vaisseau serait assez loin de la Terre pour que toute conversation en temps réel soit devenue impossible. Les communications devraient alors se faire par enregistrement de voix ou télétexte.
« Nous pensions que tu étais notre ami », se plaignit George. « C'est un sale tour d'avoir fait de nous tes exécuteurs, d'autant plus que tu ne vas rien nous laisser.
»« Vous aurez peut-être quelques surprises », répliqua Floyd en riant. « D'ailleurs, Archie s'occupera de tous les détails. J'aimerais simplement que vous surveilliez un peu mon courrier, au cas où il y aurait quelque chose qui lui échappe. »«
Si quelque chose lui échappe, à nous aussi, probablement. Qu'est-ce que nous savons de toutes tes sociétés scientifiques et autres bêtises ?»
Elles n'ont besoin de personne. Veillez, s'il vous plaît, à ce que le personnel de nettoiement ne mette pas trop de désordre pendant mon absence. Et si je ne revenais pas, voici quelques effets personnels que je voudrais faire porter à des affaires de famille, surtout.
La famille. On ne vivait pas aussi longtemps que lui sans éprouver de peine autant que de plaisir. Il y avait 63 ans, 63. que Marion était morte dans une catastrophe aérienne. Il éprouvait maintenant un vague remords de ne pouvoir réveiller en lui le chagrin qu'il avait dû ressentir. Au mieux, il pouvait s'en faire une représentation mentale, mais c'était une reconstitution artificielle, pas un authentique souvenir. Ce qu'ils auraient été l'un pour l'autre, si elle était encore en vie, elle aurait tout juste 100 ans à présent. Et aujourd'hui, les deux petites filles qu'il avait tant aimées étaient des étrangères aux cheveux gris de près de 70 ans, amicales, certes, avec des enfants et des petits-enfants. Au dernier recensement, il y en avait 9 dans cette branche de la famille. Sans l'aide d'Archie, jamais il n'aurait pu se rappeler tous les noms. Mais au moins tout le monde se souvenait de lui à Noël, par devoir, sinon par affection. Son second mariage, naturellement, avait estompé les souvenirs du premier comme une écriture postérieure sur un palimpseste médiéval. Lui aussi s'était terminé, il y avait 50 ans, quelque part entre la Terre et Jupiter. Malgré son espoir d'une réconciliation avec sa femme et son fils, il n'avait eu le temps que d'une brève rencontre entre toutes les cérémonies d'accueil, avant que son accident l'exilât à Pasteur. Cette rencontre n'avait pas été une réussite, pas plus que la seconde, organisée à grands frais et au prix de 1000 difficultés à bord de l'hôpital spatial, en fait, dans cette même pièce. Chris avait alors 20 ans et venait de se marier. S'il y avait une chose capable d'unir Floyd et Caroline, c'était la désapprobation face au choix de leur fils. Pourtant, Elena s'était révélée une personne remarquable, une bonne mère pour Chris II, née un mois seulement après le mariage. Et lorsque, comme beaucoup d'autres jeunes femmes, elle avait été rendue veuve par la catastrophe de Copernic, elle n'avait pas perdu la tête. Il y avait une singulière ironie dans le fait que Chris I et Chris II avaient tous deux perdu leur père dans l'espace, bien que différemment. Floyd était brièvement revenu à son fils de 8 ans, pour qui il était un parfait inconnu. Chris II avait au moins vécu avec son père pendant la première décennie de sa vie, avant de le perdre à jamais. Et où était Chris II à présent? Ni Caroline, ni Elena, devenues les meilleures amies du monde, n'avaient l'air de savoir s'il était sur la Terre ou dans l'espace. Mais ça, c'était typique de son tempérament. Seules des cartes postales portant le cachet de la base de Clavius avaient informé sa famille de sa première visite sur la Lune. La carte que Floyd avait reçue était encore collée au-dessus de son bureau. Chris avait un excellent sens de l'humour et de l'histoire. Il avait envoyé à son grand-père la célèbre photo du monolithe de Tycho dominant les silhouettes en combinaison spatiale réunies autour de lui, il y avait plus d'un demi-siècle. Tous les autres membres de ce groupe étaient morts et le monolithe lui-même ne se trouvait plus sur la Lune. En 2006, après bien des controverses, il avait été transporté sur la Terre et installé sur l'esplanade des Nations Unies, reflet extraterrestre de l'immeuble principal érigé sur la place. L'intention était de rappeler à la race humaine qu'elle n'était plus seule. 5 ans plus tard, avec Lucifer flamboyant dans le ciel, ce rappel n'était plus nécessaire. Les doigts de Floyd tremblèrent un peu, parfois sa main droite lui semblait animée d'une volonté propre, quand il détacha la carte de la paroi et la glissa dans sa poche. Ce serait presque le seul effet personnel qu'il emporterait à bord d'univers.
« 25 jours, » dit Jerry. « Tu reviendras avant qu'on s'aperçoive que tu es parti. Et au fait, c'est vrai que tu auras Dimitri à bord ?»«
Ce petit cosaque !» s'écria George avec mépris. « J'ai dirigé sa seconde symphonie en 22. »«
Est-ce que ce n'était pas quand le premier violon a vomi dans le largot ?»«
Non, c'était Mahler, pas Mihailovitch. Et d'abord, c'était un cuivre. Personne n'a rien remarqué, à part le malheureux joueur de tuba qui a vendu son instrument dès le lendemain. »«
C'est une blague. »«
Naturellement. Mais fais toutes mes amitiés à ce vieux sacripant et demande-lui s'il se souvient de cette sacrée nuit que nous avons passée à Vienne. »« Qui d'autre y aura-t-il à bord ?»
« J'ai entendu d'horribles rumeurs de recrutement forcé, »
hasarda Jerry.
« Fort exagéré, je puis vous l'assurer. Nous avons tous été personnellement choisis par Sir Lawrence pour notre intelligence, notre esprit, notre charme, notre charisme et autres vertus rédemptrices.
Pas parce que vous étiez des cobayes tout désignés ?
Ma foi, maintenant que tu en parles, nous avons tous dû signer un document officiel déprimant, absolvant à l'avance la compagnie spatiale Tsung de toute faute. La copie en est dans ce dossier, au fait.
Aurions-nous des chances de toucher quelque chose avec ?
Demanda Georges. Non. Mes avocats disent que c'est embêtant. Tsung s'engage à me transporter à aller et retour, à me fournir de quoi manger, de l'eau, de l'air et une chambre avec vue.
Et en échange ?
Quand je reviendrai, je ferai de mon mieux pour promouvoir de futures croisières. Je donnerai des conférences vidéo, j'écrirai quelques articles, exigences somme toute très raisonnables en échange d'une telle expérience. Ah oui, je distrairai aussi mes compagnons de voyage et vice-versa.
Comment ? En dansant et en chantant ?
Eh bien, j'espère infliger des morceaux choisis de mes mémoires à un auditoire captivé, mais je ne crois pas que je pourrais concurrencer les professionnels. Savez-vous qu'Iva Merlin sera à bord ?
Quoi ? Comment ont-ils fait pour l'arracher à sa cellule de Park Avenue ? Elle doit avoir au moins 100 ans et... Oups. Pardon, hey.
Elle en a 70, plus ou moins 5.
Oublie les moins. J'étais tout gosse quand Napoléon est sorti.
Un long silence tomba pendant lequel les trois hommes évoquèrent leurs souvenirs de cette œuvre mémorable. Quelques critiques avaient considéré que Scarlett O'Hara était son meilleur rôle, mais pour le grand public, Iva Merlin, née Evelyn Miles à Cardiff, au pays de Galles, était encore Joséphine. Il y avait presque un demi-siècle, la superproduction controversée de David Griffith avait enchanté les Français et fait enrager les Britanniques, encore qu'aujourd'hui les deux camps fussent d'accord pour reconnaître que ses impulsions artistiques l'avaient poussé à bousculer un peu l'histoire, surtout dans la séquence finale spectaculaire du couronnement de l'empereur dans l'abbaye de Westminster.
« C'est un sacré scoop pour Sir Lawrence, »
observa George tout pensif.
« Je crois qu'un peu de cet honneur me revient. » Le père d'Iva était astronome. Il a travaillé un moment avec moi. Et elle a toujours été fort intéressée par les sciences. Alors j'ai donné quelques coups de vidéo.
Heywood Floyd ne jugea pas nécessaire d'ajouter que, comme une fraction substantielle de la race humaine, il était tombé amoureux d'Iva dès la sortie de GWTW Mark II, le remake d'Autant en emporte le vent.
Bien entendu, reprit-il, Sir Lawrence était enchanté, mais j'ai dû le convaincre qu'elle avait plus qu'un intérêt distrait pour l'astronomie. Autrement, le voyage aurait été une catastrophe mondaine.
Ce qui me rappelle,
dit George en exhibant le petit paquet qu'il tentait assez maladroitement de cacher derrière son dos,
nous avons un petit cadeau pour toi.
Je peux l'ouvrir tout de suite ?
Tu crois que c'est prudent ?
Demanda anxieusement Jerry.
Dans ce cas, je l'ouvre,
déclara Floyd en dénouant aussitôt le ruban de satin vert vif. C'était une peinture joliment encadrée. Floyd ne s'y connaissait pas beaucoup, mais il avait déjà vu ce tableau. D'ailleurs, qui pourrait jamais l'oublier ? Le radeau de fortune secoué par les vagues était plein de naufragés à demi nus, certains déjà moribonds, d'autres faisant des signes désespérés à un navire visible à l'horizon. Dessous, il y avait la légende « Le radeau de la Méduse », Théodore Géricault, 1791-1824. Et plus bas, un message signé de George et Jerry. Le plus amusant, c'est le voyage.
« Vous êtes deux beaux salauds, mais je vous adore !»
dit Floyd en les embrassant tous les deux. Le voyant, attention clignotait sur le tableau de commande d'Archie. Il était temps de partir. Les amis s'en allèrent dans un silence plus éloquent que des mots. Pour la dernière fois, Heywood Floyd contempla la petite pièce qui avait été son univers pendant près de la moitié de sa vie. Et subitement, il se rappela la fin du poème. « I have been happy. Happy now I go. » J'ai été heureux. Heureux, je pars aujourd'hui.